Ce que j'aime dans le break, en fait, c'est que ça implique tellement de choses. Avant d'être un sport, on était considéré comme une discipline culturelle. À côté de ça, on est aussi des artistes. Il y a beaucoup de danseurs qui sont impliqués dans des compagnies de danse. Et là, aujourd'hui, on est considéré comme des athlètes, donc on a la branche sportive. Tu vois qu'en une discipline, t'as autant à apporter culturellement, artistiquement et de manière sportive.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Aux Jeux de Paris, en 2024, une toute nouvelle discipline fera son apparition. Vous en avez sûrement entendu parler car son annonce avait fait grand bruit. Quoi ? Le breaking rentre aux Jeux ? Eh oui, merci à mon jeu d'actrice formidable, le breaking ou breakdance deviendra officiellement une discipline olympique dans un an et demi. Et comme moi, vous devez sûrement vous poser un milliard de questions. Comment ça va se passer? Comment peut-on départager des gens qui dansent? Et sur quels critères? Pour répondre à toutes ces questions, je suis allée à la rencontre de notre plus grand espoir français, la briqueuse de 20 ans, Carlota Dudek. Attention à vous, car derrière sa voix timide se cache une force de caractère incroyable et une envie de montrer au monde ce qu'est son sport. Vous ne tournerez malheureusement pas encore sur la tête à la fin de cet épisode, mais vous comprendrez probablement plus à cette nouvelle discipline pleine de promesses. Salut Carlota.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Eh ben écoute, ça va très très bien et je suis ravie qu'on passe ce moment ensemble.
Ouais, ravie d'être là vraiment.
C'est génial. Alors Carlota, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Tu as 20 ans et tu es championne de breakdance, breaking, on peut dire les deux d'ailleurs.
Oui, officiellement maintenant c'est breaking, mais breakdance on va dire c'est le mot qui parle à un public assez large.
Ok, oui effectivement, c'est le mot un peu plus populaire
ouais,
que les
ça.
Gens ont l'habitude d'utiliser. Et là, maintenant, effectivement, dans les compétitions officielles, on parle de breaking.
Exact.
Super. Donc, je vais utiliser le terme breaking, comme ça, les gens ne sont pas perdus, mais c'est la même chose. Première question, comme ça, au moins, c'est clair. Pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le breaking, est-ce que tu peux nous l'expliquer simplement?
Ok, alors le breaking, c'est une danse qui est assez technique et sa particularité, c'est qu'elle est principalement dansée au sol. On a beaucoup de mouvements justement où on est sur le sol, aussi sur le dos, sur les mains et toute la partie technique où on a des portées, des acrobaties et c'est ça qui rend le break assez particulier.
Effectivement, c'est vrai que souvent, c'est une danse qui vient aussi du milieu hip-hop. Ça peut être confondu aussi avec d'autres danses, d'autres types de danses. C'est vrai qu'il y a la spécificité du sol dans le breaking.
Et c'est ça. T'as plusieurs piliers dans le hip-hop. T'as la danse, t'as le DJing, le graffiti et le beatbox.
Ouais.
Et donc du coup, dans la partie danse hip-hop, t'as plusieurs styles de danse comme le pop, comme le new style. Du coup, tu as le break, qui, lui, c'est vraiment la seule danse qui est au sol.
Très bien. Toi, tu as commencé le breaking à l'âge de 6 ans, je crois.
C'est
ouais,
ça. C'est ça.
Initialement, c'était pas forcément du breaking que tu voulais faire. Je crois que c'était du judo.
Oui. Oui, c'est ça. J'ai découvert le break à l'âge de 6 ans. Donc, c'était à l'école primaire.
Ouais.
On faisait des interventions. Et oui, pour la petite histoire, j'avais l'habitude de faire mes petites interventions en maternelle. Et là, je venais de passer au CP et j'avais plus mon judo. Donc, du coup, j'ai fait ma petite crise. Et pour me consoler, on m'a amenée au break. Et ça a été une bonne idée puisqu'on m'a appris mes premiers mouvements et ça a été direct le coup de cœur.
Quand t'as 6 ans, tu fais quoi au break? Tu te dis, c'est quand on voit ce que tu fais maintenant, c'est hyper impressionnant, c'est des mouvements qui sont hyper techniques, qui font appel à la puissance. À 6 ans, tu fais quoi?
À 6 ans, déjà quand j'ai commencé, je connaissais absolument rien. Donc vraiment, j'y suis allée pour tester et m'apprendre ce qu'on avait à m'apprendre. Et donc quand tu commences par ce qu'on appelle les fondamentaux.
Mm-hmm.
C'est tout cet ensemble de bases que tu apprends pour justement prendre un bagage technique, mais
okay.
sur des mouvements fondamentaux. Et que après, toi, à travers travers les années, tu vas pouvoir développer, les développer avec ta créativité, les amener plus loin, mais du coup, comme on dit, à ta sauce.
C'est ça qui peut être aussi un peu pas évident à capter, c'est que dans le breaking, on voit que chacun a vraiment des styles différents. En fait, on sent qu'il y a une base commune. Effectivement, tu dis le sol, il y a des mouvements, on voit aussi qui peuvent un peu se retrouver. Mais le principe de cette danse-là, c'est aussi que chacun puisse y amener un peu sa sauce, quoi.
C'est exactement ça. Ce qui est bien, c'est que sur un même mouvement, deux personnes qui font le même mouvement, elles le feront pas pareil. Ouais. Parce que chacun a sa gestuelle qui lui est propre. Donc sur ça aussi, c'est quelque chose qui nous appartient. Et ensuite, tu vois, même sur un bagage technique, on va dire qu'on apprend des techniques, mais le but, ça va pas être au final de les exécuter.
D'accord.
Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de les développer, de trouver, on va dire, une petite variante qui fait que cette technique-là, elle s'apparente à toi et ça devient après des mouvements qui sont, comme on dit, signés.
Ok, de t'approprier finalement la discipline en fait.
Oui, c'est exactement ça. Le but au final, et c'est un des critères qui va être super important, ça va être l'originalité. C'est pénalisé au final de recopier un danseur.
D'accord.
Ou quelque chose comme ça. Donc on tient vraiment à pouvoir se démarquer les danseurs les uns des autres.
L'unicité de chaque personne.
Exactement.
Et du coup, c'est quoi le style Señorita? Bah, parce que j'ai pas dit quand même ton nom. Faut quand même le dire, Señorita Carlota, qui est ton nom de big girl, c'est comme
ouais,
ça qu'on parle, ouais. B-boy et le big girl quand vous faites du break. C'est quoi ton style du coup?
Mon style, bah du coup, si on s'apparente à mon nom, Señorita Carlota, on note tout ce qui est influence latine parce que je suis d'origine cubaine.
Ouais.
Et en fait, très petite, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'évoluer dans un groupe de filles. Et mon entraîneur, il a vraiment appuyé sur le fait de garder notre touche féminine. C'est un milieu qui est majoritairement masculin. Alors le but, c'était pouvoir de se démarquer au final, pouvoir danser, mais avec une certaine élégance. Et ça a fait ma force. Quand je danse, on retrouve souvent des mouvements de salsa.
Okay.
Et c'est pour ça qu'on me connaît sous le nom de Señorita Carlota. Et à travers ça aussi, j'aime beaucoup mettre de la technique. Donc j'ai une danse qui est assez technique, surtout pour une fille. Ce qu'on appelle des tricks, par exemple, des mouvements qui sont arrêtés, techniques, et que je vais enchaîner. Et j'adore me démarquer à travers ça aussi.
Comment on apprend le break? Tu disais, tu avais 6 ans, effectivement, au fur et à mesure. Pourquoi t'as voulu continuer? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quand même très différent du judo, hein.
Ouais.
Ça, on va pas se mentir. Là, il y a une dimension artistique un peu plus grande qu'il n'y a dans le judo, même si, attention, je ne dis pas que le judo n'est pas artistique, mais bon, c'est différent, on est dans un sport de combat.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi t'as voulu continuer? Ça a été quoi, en fait, le cheminement de ta pratique?
Un moment qui a été fort, le premier jour où j'ai commencé, on a eu l'étape du cypher. Donc en fait, c'est un cercle. On se regroupe tous en cercle et chacun passe un par un au milieu du cercle. On s'entraîne souvent comme ça et le moment où j'ai dû aller, on nous a dit maintenant abandonnez toute consigne et faites ce que vous avez envie de faire. Et le moment où je suis passée, donc en fait, j'ai fait ce que j'avais appris et puis j'ai dansé comme ça me venait On va dire que toute l'énergie qui s'est dégagée autour, j'ai adoré. J'ai adoré ce moment-là parce que il y a eu plein de choses. Il y a eu le fait que je pouvais m'exprimer. Donc on retrouve vraiment ça dans la danse, de pouvoir faire justement ce que tu ressens sur le moment.
Ouais.
Et retrouver en même temps le fait de pouvoir exécuter ce que j'avais appris. Donc c'est ce mélange de choses, de voir que j'avais pu apprendre un mouvement, j'avais pu le faire, donc je me mettais au défi de le faire plus vite, le plus propre possible, et en même temps d'y rajouter ma touche. Donc tout de suite, j'ai senti que j'étais intégrée dans cette discipline-là, et puis je me suis plus jamais posé de questions, vraiment, je venais à tous les cours, même quand j'avais le bras dans le plat, je venais. Ah oui, vraiment. Et petite, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours fait du sport, et je sais pas, instinctivement, à partir du moment où j'ai commencé le break, j'ai toujours choisi d'autres sports, comme la natation, l'athlétisme, mais toujours en complément pour pouvoir m'aider justement dans le break.
Bah, moi, il y a quand même un point où je me dis, c'est quand même incroyable, t'as 6 ans, tu parles du cypher effectivement où t'es au centre et que tout le monde te regarde et t'es aussi dans une sorte d'effervescence. Quand t'as 6 ans, c'est pas tétanisant d'être comme ça au milieu au milieu de tout le monde.
Dans mon souvenir actuel, je me souviens plus de ce que j'ai fait quand j'étais dans le cercle. C'est sûr que j'ai fait la base que j'avais apprise, mais je me souviens du moment où justement il a dit faites ce que vous voulez, et là je me suis dit mais c'est quoi, qu'est-ce que je veux? Je me suis dit mais c'est quoi que je sais faire, comment? Mais j'étais perdue, j'ai paniqué, et à ce moment-là j'ai plus de souvenirs, je sais plus comment je me suis débrouillée au milieu, mais je sais que quand je dansais justement, en fait, tout le monde dans le cercle applaudissait. Il y avait l'entraîneur qui donnait beaucoup d'énergie et qui encourageait. Et je me suis dit, waouh, c'est ouf. Ce qui se dégage, là, l'énergie qui rentre, c'est incroyable. Parce que moi, j'aurais pas cru pouvoir danser.
C'est vrai.
J'aurais pas cru pouvoir rentrer dans le cercle. Et je l'ai fait. Et j'aime bien parce que en grandissant, du coup, j'étais amenée aussi à donner des cours. Et c'est fou de voir les jeunes, comment ils arrivent au cours et comment ils repartent. Beaucoup qui sont assez timides, souvent ils sont dans le fond de la salle, tu les vois se coller au mur parce que justement ils ont peur. Ils n'osent pas aller au centre de la salle. Et petit à petit, tu apprends le mouvement et tu leur donnes confiance et ils repartent changés. Et ça, c'est ouf.
C'est vraiment ce que ça t'a fait, toi ? T'étais une petite fille timide à l'époque ou t'étais déjà plutôt à l'aise ?
J'étais timide. Et je pense que plus je grandis, plus je suis timide encore.
C'est vrai ?
Ah ouais, vraiment. Donc quand je fais ce constat-là, je me dis que heureusement que le break a débarqué dans ma vie parce que je pense que j'aurais pas osé être la personne que je suis aujourd'hui et ça, j'en suis vraiment reconnaissante.
Mais ça peut être contradictoire parce qu'on se dit dans le break, justement, il y a quand même un aspect je montre ce que je fais, je suis censée être à l'aise, pas être dans la timidité parce que c'est show-off quoi, le break. Comment tu gères cette timidité du coup qui t'est propre?
Mais en fait, quand tu danses, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'assumer et tout simplement, t'as pas le choix parce que si tu veux convaincre les autres, t'es obligé d'être convaincu toi-même. Donc t'es obligé de te dire, ok, je suis là, je suis en place et j'impose ce que je fais. Si tu montres pas une certaine assurance, les autres ils vont pas y croire pour toi. Et c'est pour ça que ça m'a obligée à mettre de côté ma timidité. Ça empêche pas que après dès que je sors de la salle, on le voit, je suis assez réservée et timide. Mais le moment où je danse, c'est vraiment mon petit défi personnel. Et je me dis non, là je peux pas laisser ça prendre le dessus et je vais aller chercher ce que je veux. Tu le vois dans le break, chacun a sa personnalité. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu peux pas te mentir à toi-même. Ouais. T'es obligé d'assumer qui tu es et de réfléchir à comment justement tu veux le mettre en valeur. Donc c'est pour ça que le break, ça suppose aussi un travail personnel, mais quelque chose qui se fait naturellement, puisque ça vient vraiment de l'intérieur de toi-même, et c'est quelque chose que t'as envie de valoriser. Au final, t'as envie de valoriser la personne que t'es.
Et mais ça va pas être évident, parce que tu dis effectivement, c'est montrer qui t'es, ta personnalité, et tu peux pas te cacher. Sauf que t'as 20 ans, t'es encore hyper jeune. La quête de soi et trouver qui on est et aussi pouvoir du coup l'exprimer, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Quand t'écoutes les gens, ils disent moi, je me sens alignée maintenant à 45 ans, tu vois.
Ouais, exact.
Et à 20 ans, quand tu te replaces dans ces âges-là, c'est pas forcément évident. Est-ce que finalement le break, du coup, ça t'a obligé à essayer de comprendre peut-être plus vite qui t'étais et ce que tu voulais montrer ?
Ah, totalement, totalement. En plus, on a plusieurs étapes quand on danse. Je pense que quand on est jeune, c'est quand même plus facile de se libérer parce qu'on se pose moins de questions. Plus tu grandis, plus tu vas te remplir d'insécurité et donc ça va être compliqué. Moi, j'ai eu cette étape-là quand j'ai grandi. Où j'ai mis longtemps à retrouver justement qu'est-ce que je voulais diffuser, jusqu'au moment où t'as plus envie de laisser passer ta chance, t'as juste envie de croire en toi et te donner les moyens. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a aidée. Et j'aime comment aussi ça m'impacte dans ma vie de tous les jours, par exemple, à l'école, au moment de passer un oral, au final, c'est comme si je rentrais dans mon mode big girl, où je me dis, ok, donc là, maintenant, c'est le moment d'y croire et d'assumer.
Je rentre dans le secteur.
Ouais, c'est exactement ça. Et donc, du coup, tu prends la parole et tu assumes. Aujourd'hui, ce que j'aime bien en compétition, ma préparatrice physique, c'est le mot qu'elle me crie quand je danse. Dès qu'elle voit que je commence à baisser la tête, là, on voit que ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas chez Carlotta. Okay. Donc, en fait, c'est le seul truc qu'elle me crie. Assume. Et c'est vraiment le truc qui me permet de prendre confiance en moi et d'aller imposer ma danse, justement.
Ok. Tu parlais tout à l'heure, c'est toi ton style du coup, c'est aussi les influences de Cuba. Je crois que c'est ta maman qui est cubaine.
Ouais.
T'as un papa polonais aussi, donc c'est un sacré mélange.
Mon papa, il est alsacien et d'origine polonaise, ouais. Donc le mix, il est assez fou. Ouais.
Ça a été une évidence pour toi. Est-ce que la danse, justement, ça faisait partie déjà du monde de ta maman, de Cuba? Enfin, pour avoir eu la chance d'être déjà allée à Cuba, effectivement, on sent qu'il y a une énergie qui est folle là-bas, quoi.
Oui. Ouais, oui, Cuba, ça m'a totalement influencée dans ça. Et en fait, justement, le Señorita, il est venu de là parce que moi, je dansais tout le temps à la maison. Je dansais tout le temps sur du Shakira ou d'autres ambiances latino. Et en fait, c'est ma mère, elle m'a balancée à mon entraîneur. Elle m'a balancée, elle lui a dit « Oui, ben, Carlota, elle danse à la maison. » Et donc, du coup, il a voulu voir ce que je faisais à la maison. Et donc, il a fallu que je fasse. Et quand il m'a vu bouger comme ça, il a dit bah, « Señorita, en fait, c'est évident. »
C'est trop mignon.
Ouais.
Et tu peux, parce qu'effectivement, tu vois, moi, quand je me suis renseignée sur toi avant cette interview, effectivement, je me suis dit « Ok, j'ai refait un peu la genèse aussi du break. » Je me suis dit « Bah ouais, ça vient des États-Unis, c'est lié au hip-hop. » Là, tu dis, tu mets des mouvements de salsa, on est quand même assez loin du hip-hop.
Ouais, ouais.
Comment tu, est-ce que c'est bien perçu justement d'apporter d'autres influences dans le break?
Totalement, parce que à la base, le break, c'est une discipline qui s'inspire de beaucoup d'autres disciplines.
Ouais.
On y retrouve beaucoup d'arts martiaux, de la danse russe, on y retrouve beaucoup de capoeira.
Ouais.
Des mouvements de capoeira. Donc en fait, c'est quelque chose qui au final semble évident. Il y a même il y a des pas qu'on appelle déjà salsa step.
Okay.
C'était pas choquant en fait que je vienne rajouter cette influence-là.
Et comment, alors ça, on va rentrer un peu plus dans le détail après de la discipline, parce qu'effectivement, moi j'ai plein de questions, je me dis mais attends, mais du coup, comment tu peux comparer deux trucs qui sont hyper différents? Ouais. Et comment, justement, je pose la question, comment, avec de telles différences, de telles personnalités dans ta discipline, c'est possible d'avoir des contests, voilà, d'avoir des compétitions, et comment tu t'en sors en fait dans ce genre de compétition pour dire ok bah ça c'est mieux que ça et ça du coup ça va être moins bien alors que c'est finalement tellement varié.
Ouais, mais ce qui est bien dans le break, c'est qu'on n'a rien imposé et on n'a rien réglementé.
Ok.
Souvent, on me demande à l'approche des jeux, est-ce que du coup, il y a une certaine notation? Mm-hmm. Est-ce que des mouvements valent un certain nombre de points? Et pas du tout. On est complètement libre sur notre performance. Donc, quand je vais défier quelqu'un, je viens avec mes armes, avec ma danse, et je viens lui montrer que je suis meilleure que lui avec ce que j'ai moi. C'est une danse, du coup, de jugement. Et donc, ça reste super subjectif. Mmh. Souvent, on a cette question-là. Comment quelqu'un qui danse avec une danse plus subtile peut battre quelqu'un qui danse avec de la technique?
Ouais.
Sachant que pour le grand public, ça va être beaucoup plus
impressionnant
et beaucoup plus parlant. Et justement, c'est, des fois, c'est question de goût et de couleur.
Okay.
Mais ce qu'on analyse beaucoup, c'est justement les fondamentaux, comment tu les fais, est-ce qu'ils sont là, est-ce que justement tu respectes un petit peu tous les fondamentaux du break? Ensuite, comment toi tu vas pousser ça?
Ouais.
À quel point tu es original? Les mouvements signature, ils prennent beaucoup de poids.
D'accord.
Et ensuite, dans la technique, jusqu'à où tu pousses la technique. Donc, en fait, on n'a pas de critères établis. Il y a beaucoup de ressentis au final de ce que tu vois, comment la personne va l'interpréter, ça va la toucher. Et c'est comme ça qu'on juge. C'est dur. C'est super dur de devoir décrire comment l'un est plus fort que l'autre. Mais c'est quelque chose déjà qui se ressent par rapport à la danse et ouais, tout ce que le danseur met en place.
On parle beaucoup de flow. Est-ce que c'est un truc vraiment qui est important? Quand on t'écoute, on a l'impression finalement que cette notion de flow, elle est aussi importante que la notion de technique, quoi.
Ah, mais totalement. Il y a énormément de battles qui mettent... Qui opposent du coup des gens très techniques avec des gens qui sont beaucoup plus focalisés sur la danse et le flow, sur leur recherche, la créativité et la subtilité. Et ça, c'est des compétitions qui sont super importantes et super intéressantes à analyser. Parce que justement, qu'est-ce que tu apportes quand tu danses? Quand tu vas faire de la technique, ça va être super impressionnant. Mais du coup... comment tu vas faire que ça prenne une certaine valeur? Parce qu'au final, il faut pas non plus que ce soit juste de l'exécution.
Ouais.
Alors que quelqu'un qui arrive avec du flow, justement, c'est quelqu'un qui groove, c'est quelqu'un qui te fait kiffer. Au final, t'as envie de te lever de ta chaise et d'aller danser avec lui. Donc, quels sont les mouvements qu'il met en place? Comment il les lie avec la musique? Quelle est cette magie au final qu'il met en place et qui va toucher tout le public?
On commence à en parler un petit peu, mais c'est vrai que le break à la base, c'est pas une discipline qui était vraiment structurée. Je veux dire, ça vient de. Enfin, c'était des crews de danse qui faisaient des battles. Enfin, il n'y avait pas vraiment de compétition à la base. Ça s'est structuré au fur et à mesure. Comment ça se passe en fait un contest de break?
Alors, un battle de break, ce qui est bien, c'est que tu as plein de choses à faire. Tu peux avoir différentes catégories, donc du 1 contre 1 jusqu'à des 8 contre 8. Donc okay. Là, tu qui opposes des
gros crews. Ouais.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est énorme comme compétition. Tu peux même avoir des Bonnie and Clyde. Donc, c'est des 2 contre 2 composés d'une fille et d'un garçon.
Ok.
Et donc, tu as vraiment une certaine liberté pour t'affronter au final. Ce que j'aime bien, c'est que souvent, il n'y a pas forcément de catégorie. Tu peux, sur un contre un, autant tomber contre un adulte, contre un enfant, autant contre une fille, autant avec quelqu'un qui a un handicap physique. Et ça, à la base, on n'a jamais fait la différence, on n'a jamais catégorisé ces particularités-là. À partir du moment où tu viens et tu danses contre moi, c'est que tu estimes que tu peux me battre, alors viens te battre et viens me montrer qu'est-ce que tu sais faire pour venir me gagner. Et c'est ça que j'aime dans le break.
En fait, tu peux vraiment te retrouver face à un mec, face à un enfant. En fait, c'est complètement libre. C'est une grande compétition où tout le monde est le bienvenu.
Ma première compétition, j'étais contre des adultes. J'étais toute petite, j'avais 7 ans et j'étais contre des adultes. À ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. mais oui, et en plus, mon entraîneur, il appelait ça le vaccin. Il me disait, c'est bien que tu t'affrontes à des gens plus grands que toi parce que si aujourd'hui, tu n'as pas peur d'eux, tu auras peur de personne.
Ah, du coup, ça t'aura vacciné contre cette peur.
Ouais, c'est ça.
C'est génial. Ok, donc c'est incroyable. Et les compétitions, donc maintenant, t'as des championnats de France, t'as des compétitions internationales qui sont plus ou moins considérées comme des Coupes du Monde, en fait. C'est exactement la même chose, ça se configure pareil que les battles.
Oui. Le break a parcouru un grand chemin de quand ça a commencé du coup à New York dans la rue où du coup on était principalement sur des cyphers. Ensuite ça a évolué et ce qui est bien c'est que avant même d'avoir tous ces championnats de France, championnats du monde officiels, les battles se sont beaucoup développés et particulièrement en France. La France ça a été un grand pilier justement dans le développement des battles parce que ici, grâce à des subventions, ça a permis de créer de grands événements. Mmh. Et en France, on est l'un des premiers pays à avoir eu des grandes scènes et permis d'accueillir des grandes compétitions à niveau international. Moi, quand j'ai commencé, quand j'étais petite et que je me faisais inviter dans des compétitions juniors, on avait déjà une certaine institutionnalisation où du coup j'étais invitée, j'étais défrayée pour aller faire ma compétition, j'avais un accompagnateur avec moi, et là aujourd'hui, donc sur des compétitions officielles, ça prend encore un autre niveau, mais les battles restent les mêmes au final. On est toujours sur de l'affrontement, on peut avoir des catégories, catégorie filles, catégorie garçons, et ensuite il suffit juste de savoir si c'est du 1 contre 1 ou crew contre crew, et ça a exactement le même déroulé. Tu as un jury, tu as un speaker, du coup, qui va organiser un petit peu tout le battle, et qui va pouvoir mettre tout ça en place. Tu vas avoir un DJ qui va balancer la musique et un public, parce que sinon la magie elle sera pas là.
Ouais, bah, j'imagine que c'est pas la même chose s'il y a pas l'émulation des gens et du public autour.
Ah oui, le public il a un rôle énorme. Un battle sans public, c'est déjà arrivé et c'est super dur. C'est super dur parce qu'au final, t'as l'impression d'être face à toi-même. Mm. T'as l'impression de danser contre toi-même et tu dois aller puiser l'énergie au final encore plus loin et c'est super dur pour ressortir quelque chose, alors que quand le public il est présent et que tu donnes un mouvement et que lui il t'encourage en retour, ça te donne une énergie énorme. ça te libère en quelque sorte et ça te permet d'aller puiser au final des ressources que tu pensais pas aller puiser et ça rend le battle à un autre niveau. Quand nous, on est sur une compétition de défi, donc il y a aussi beaucoup de langage hors danse où on va essayer d'aller taquiner l'adversaire, le déstabiliser. Et donc, sur une compétition où tu as un danseur qui fait un mouvement et tu sais que tu sais le faire et le public a crié, tu dis « mais je vais le faire crier encore plus !» et que tu passes sur la même chose et que la salle, elle s'emballe. Mais là, ça crée une dynamique énorme et ça, c'est génial.
Mais ça, j'imagine que ça doit... Enfin, ça doit être l'essence même de ton sport, de ta discipline. C'est ça, en fait, finalement.
Ouais, c'est tout ce que tu crées, au final, pendant la compétition. Ce qui est bien, c'est que dans un battle, tu peux pas prévoir ce qui va se passer. Mmh. Tous les battles, même si, par exemple, tu as déjà rencontré cette personne, tu peux pas prévoir. Tout est indépendant, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est unique. C'est tout ce que tu vas créer, du coup, toi, dans ta performance, comment ton adversaire va te répondre, quelle va être la réaction du public, comment le jury va l'interpréter, le DJ, la musique.
Ouais.
Parce que la musique, c'est vraiment le premier truc qui démarre la compétition. Nous, on ne connaît pas la musique.
Ah, justement, j'avais ouais. une question, j'avais une grosse question en gras de le rôle de la musique.
Ouais. La musique
dans ta discipline.
Ouais, c'est, mais ce qui est bien, c'est que nous, on ne connaît pas. On
jamais.
Connaît, on vous... connaît pas okay. la musique.
Donc c'est la surprise.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le DJ qui balance. Et donc, instantanément, en fait, tu dois t'adapter et danser. Donc, il envoie le son et 5 secondes après, il y en a un qui rentre, quoi.
Ouais.
Donc, il y a vraiment aussi ce devoir-là de devoir t'adapter. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas la mettre en valeur dans ton passage? Et c'est ça aussi qui rapporte énormément de points.
Comment tu gères, toi, justement, ce point-là, la musique? Parce que j'imagine, des fois, une musique qui part, tu fais « Oh,
ça, c'est dur !»
Oui, oui. Oh là là, ça m'inspire pas du tout. Comment tu gères ouais. ce truc-là? Et à l'inverse, justement, quand t'as un truc qui te prend et tout, j'imagine que ça doit être complètement différent d'une musique à l'autre.
Ah oui, oui, mais quand déjà le battle n'a même pas commencé, le DJ met la musique et tu vois juste le public qui s'emballe parce que la musique elle est ouf et tu sais que du coup ça va être un gros battle, mais là c'est énorme. Et à contrario, quand t'as une musique que tu ressens pas du tout, c'est super dur parce que du coup il va falloir que toi tu fasses que tes mouvements ils soient mis en valeur, peu importe la musique. Donc là, ça va être un travail qui va être beaucoup plus dur. Mais justement, c'est ça qu'on nous demande, justement. Comment tu t'en sors avec et qu'est-ce que tu crées autour de ça?
Ok. Ouais, donc en fait, tu vois, on pourrait s'imaginer que tu as des enchaînements plus ou moins préconçus. Mm. Mais en fait, tu peux pas du tout les poser de la même manière en fonction de la musique, en fonction du rythme, en fonction
oui.
de tout ça.
Ton passage, il a rien à voir suivant la musique. Tu peux le connaître par cœur, l'exécuter parfaitement suivant la musique et comment toi tu joues dessus, ça n'a ouais. jamais le même effet.
Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que comment ça se passe quand tu rentres justement dans le battle? T'as un moment un peu de préparation, après tu poses des trucs un peu plus impressionnants. Est-ce qu'il y a vraiment une construction ou est-ce que c'est vraiment freestyle et tu fais absolument ce que tu veux?
Alors, non, souvent, on vient quand même préparer. On vient préparer. Tu as une idée, surtout quand tu as ton adversaire. Tu sais un petit peu où tu veux aller, quel mouvement tu veux placer.
Ouais.
Y a toujours une part d'impro. Déjà parce que tu connais pas la musique, ton adversaire, tu sais pas comment il va te répondre. Il suffit qu'il fasse un mouvement et que ça rebondisse du coup sur toi, ce que tu vas faire. Y a le moment où tu rentres, où tu commences à danser, on appelle ça les préparations, les pas de préparation. Donc là, c'est okay. tout ce que tu vas, la danse en haut que tu vas faire.
D'accord.
Donc là, c'est généralement c'est une partie d'impro. C'est le moment où toi, tu t'adaptes sur le son, justement, tu commences à placer tes premiers mouvements et on va dire, ça donne une première vision de toi, comment t'arrives, comment
D'accord.
tu imposes ton style et qu'est-ce que tu vas faire après. Là, c'est vraiment le moment où tu viens et tu dis, ben voilà, je suis...
C'est moi, quoi.
Ouais, c'est moi, je suis Carlotta et je vais te montrer. Et ensuite, en général, ça se compose avec une descente où tu peux aller en technique et là, tu fais justement les mouvements que tu veux placer. Et ensuite, tu finis, t'oublies jamais de mettre une attitude derrière et après,
ouais.
tu retournes chez toi, enfin, dans ton camp, du coup.
C'est génial. Et vous avez un passage par battle?
En général, c'est deux passages.
Deux passages, ok. Donc, vous revenez deux fois
ouais, au
centre.
Ouais, c'est ça. C'est un question-réponse. Donc, l'adversaire passe, je lui réponds. Et ensuite, il repropose quelque chose et je réponds à nouveau.
Ok. Et en fonction de ça, à la fin, du coup, les juges disent, ok, bah, c'est elle ou c'est...
Le jury peut voter. Généralement, sur les battles traditionnels, ce qui est drôle, c'est que les votes sont à main levée.
D'accord.
C'est-à-dire que au 3-2-1, le jury met sa main à gauche ou à droite
ouais.
pour désigner en fait la personne qui veut faire passer.
D'accord.
Et t'as aussi le tie-break, donc tu croises tes mains, donc en gros à ce moment-là ça veut dire je veux un passage supplémentaire.
Ok. Quand ils n'arrivent pas en gros à déterminer lequel des deux
exactement.
Prend c'est... le dessus,
exact.
T'as le droit de faire un round en plus quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok, très bien. Bah écoute, très bien déjà, je pense que c'est bien de placer un peu les bases, parce que finalement, ouais. c'est vrai que c'est une discipline qu'on connaît assez peu et on comprend pas forcément très bien comment c'est structuré. Toi, à quel moment tu t'es dit, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu fais des études à côté ou est-ce que t'es 100% dédié au break?
Je fais des études. L'année dernière, j'ai fini mon DUT en gestion d'entreprise.
Okay.
Et là, je fais un DCG, un diplôme en comptabilité gestion.
Ok.
Et cette année, par contre, je l'ai aménagé. Jusqu'ici, jusqu'à mon DUT, j'ai toujours eu un cursus normal. Mais maintenant, avec mon statut d'athlète, ça me permet de pouvoir aménager mes cours et d'être beaucoup plus focus sur le break, m'y investir beaucoup plus. J'ai pris cette décision-là aussi parce que je pense que si j'ai envie de vivre à fond, ma discipline, c'est maintenant et c'est pas plus tard. Donc... ouais, je continue les études, mais de manière aménagée.
Ok. À quel moment tu t'es dit, bah justement, tiens, je vais m'y mettre à fond, j'ai les capacités pour faire des belles choses dans cette discipline-là. Est-ce que c'est justement l'annonce du passage comme discipline olympique ou c'est autre chose?
Alors...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Depuis que je suis petite, je me suis jamais posé de questions. J'ai vraiment dansé, fait mes compétitions et on va dire que depuis que j'ai commencé, je pense aussi du fait de l'avoir commencé à l'école, par rapport aux différentes générations, moi je l'ai toujours pris comme un sport. D'accord. Ça a toujours été mon sport à moi. Et mais j'ai vraiment, il y a vraiment un cap qui est passé après les Jeux Olympiques de la jeunesse, où du coup ça a été ma première expérience olympique. J'ai fait une 5e place et juste après ça, on nous a annoncé l'arrivée du break aux Jeux de Paris. Et en fait, en parlant avec des sportifs, on m'a dit bah là, il va falloir que tu te poses la question. Est-ce que tu veux t'y impliquer? Mais à ce moment-là, tu t'y impliques vraiment.
Ouais.
Il faut vraiment que le break, ça devienne ton entreprise. Ou alors, du coup, tu veux continuer ça comme un loisir. Ça m'a fait bizarre d'avoir à me poser la question parce qu'au final, je l'ai toujours fait de manière instinctive. Ça a été ma passion et je me suis toujours impliquée, on va dire, avec le cœur. Et là, d'y aller avec une autre approche... bon, après, j'ai pas eu à me poser la question longtemps. J'ai dit que je voulais mettre vraiment le break au centre de mes projets. Et là, j'ai décidé, au final, d'en faire mon métier. Ouais, c'est le break, c'est mon métier.
C'est vraiment, en fait, il y a eu une sorte de passage de discipline loisir à finalement presque monter une entreprise.
Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, le break, c'est mon entreprise.
Ouais, c'est ça. Donc, t'es la chef d'entreprise de ton entreprise du break.
Ouais, c'est ça.
C'est particulier quand même. Est-ce que ça a changé ta vision de la discipline? Est-ce qu'on perd pas? Tu vois, c'est une question vraiment que je me pose pour les sportifs pros dont c'était la passion petit, peu importe la discipline. Est-ce que tu perds pas un peu cette magie, cette passion quand ça devient quelque chose de professionnel?
Non. Non, tu la perds pas parce qu'en fait, c'est ça qui te fait tenir. C'est ça qui fait que... Et dans des moments où c'est dur... parce que être sportif, ça, c'est beaucoup de sacrifices dans différents domaines, mais les moments où c'est dur, en fait, c'est ça qui te raccroche à ta discipline. Donc, tu perds pas de la magie. Il y a plein de choses qui évoluent. Je dirais pas qu'ils changent, mais du coup, qui évoluent parce que tu vas t'entraîner différemment, tu vas voir les choses différemment. Mais au final, au fond, si tu le fais, c'est vraiment parce que ça vient du cœur et c'est ça qui fait que tu te lèves tous les matins et que tu dis, mais ok, je continue et je continue de me battre pour ça.
Ouais, tu continues à prendre du plaisir, tu continues à ressentir cette petite flamme toujours.
Je pense que t'es obligé de te recentrer sur ce point-là et te rappeler pourquoi t'as commencé, pourquoi tu le fais. Il y a plusieurs moments dans ma carrière où j'ai dû me redemander pourquoi je danse, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte. Et c'est tout simplement, quand je me rappelle pourquoi j'ai commencé et pourquoi j'en suis là, que ça me donne envie de continuer. Il y a des moments qui sont durs et au final, je réfléchis, je me dis oui, mais en fait, le truc où je suis forte, c'est à ça. Le truc que je sais mieux faire, c'est danser. Donc pourquoi je vais aller faire autre chose au final et alors que j'ai un talent, c'est danser. Et en fait, le combat que je préfère, c'est de développer ça. Le combat que je préfère faire dans ma vie, c'est de danser, de m'y impliquer à fond et c'est pour ça que j'ai envie de travailler dans ma vie.
Et est-ce que tu devrais faire autre chose aussi? J'imagine que cette question-là, tu dois te la poser dans les moments où tu doutes, justement.
Ouais. C'est dur parce que je ne me vois pas faire autre chose. Justement, des fois, dernièrement, c'est la chose que je me suis demandé. Parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, les deux choses principales, donc c'est le break à temps plein, mais j'ai aussi les études. Et quand j'ai eu un moment de doute, je me suis dit, non, mais attends, Carlotta, est-ce que là, tu te vois faire du 8h-17h à l'école? Et là, je me suis très vite rappelée que, OK, je préférais avoir des moments durs, mais travailler dans le break que ce soit dur de 8h à 17h assis sur une table, quoi. Donc le break, sans aucun doute, quoi.
Justement, c'est vrai qu'on parle de cette professionnalisation de la discipline, parce que c'est un peu le terme. Effectivement, on sent que c'est arrivé très fort à partir du moment où le break a été annoncé comme discipline olympique aux Jeux de Paris. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'en doutais déjà? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ça a été genre « Ah, trop bien !» ou « Oh, pourquoi ?»
Non, dans mon cas, ça a été « Oh, trop bien !» Déjà avec les JOJ, on va dire que c'était beaucoup plus évident du coup après avoir vécu les Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais même ça, en fait, les Jeux Olympiques de la jeunesse, je crois que j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui était en train de nous arriver et du coup qu'est-ce que ça a impliqué pour notre discipline. Parce que vraiment, en 2017, on nous a dit voilà, vous êtes intégrés au JOJ. Et donc, 2017, c'est bon, qualif. Et 2018, tu fais ta compète. Donc, il n'y a pas eu le temps, au final, de réfléchir, mais juste de saisir l'opportunité. Et d'aller prendre ce qu'il y avait à prendre. Surtout qu'au final, les Jeux, quand même, c'est un événement unique. Chaque sportif s'entraîne pour ça. C'est vraiment l'objectif d'une carrière pour un sportif, donc au final, et ça représente tellement de belles choses et de jolies valeurs que c'est quelque chose de positif. Et ce qui peut faire peur, justement, quand on te dit que ta discipline arrive au jeu, c'est tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que ça va impliquer, donc pour toi en tant qu'athlète, pour toi, enfin, du coup, à ce moment-là, pour moi en tant que danseuse, pour toi aussi, dans ta vie professionnelle. C'est plus ça, on va dire, les doutes et les craintes qu'il y avait suite à l'annonce.
D'accord, t'as pas eu peur que ça change ta discipline, en fait? Que le fait que ça arrive sur la scène olympique, l'essence même de ta discipline, qui est justement ce côté un peu sans règles, se soit changé et que, tout l'ADN de ta discipline vienne à être modifié, quoi?
Ça a été les premières craintes. Et pour toute la communauté break, c'est vraiment l'argument principal. C'était qu'est-ce que ça va endommager? Est-ce qu'on va perdre justement qui on est? Est-ce qu'on va nous imposer des choses alors que nous, on est
c'est
des
la
rebelles.
Liberté,
hein. Ouais. Ah ouais. En break, on est vraiment des rebelles. Mais je pense que déjà, pour moi, c'était plus facile à appréhender parce que j'ai connu le break dans un autre cadre. C'était à l'école. Donc, t'es déjà dans un cadre un peu plus institutionnel. Ouais. Là où moi, mes entraîneurs, eux, quand ils ont commencé, ils essayaient vraiment de gratter des salles pour avoir un endroit. C'était vraiment underground. Au final, tu te réunis avec tes amis et tu t'entraînes là où tu peux. Donc, ils ont vraiment vécu l'essence break, quoi. Ouais. Moi, c'était déjà avec une autre approche. Déjà, automatiquement, quand j'en parlais, on me demandait quel est ton sport, je disais break. Alors que jusqu'ici, c'était pas encore considéré comme une discipline sportive. Donc pour moi, pour ma génération à moi, ça a été beaucoup plus facile. C'était assez logique au final. Mais j'ai pas eu forcément de crainte. Et je pense aussi du fait d'avoir vécu les Jeux Olympiques de la jeunesse, parce que ça s'est super bien passé et ça a été super bien accueilli. Les compétitions étaient totalement pareilles. T'as un système de jugement qui évolue, t'as des choses qui sont différentes, t'arrives dans un village olympique, tu te retrouves avec des sportifs, il y a plein de choses qui sont nouvelles, mais au final, le moment de la compète, t'es toi face à ton adversaire et c'est à toi de défendre tes armes comme dans une compétition normale, quoi.
Je relève un truc que t'as dit tout à l'heure, tu disais, toi, tu t'as appris ça à l'école dans un cadre qui était déjà plus ou moins institutionnel, ce qui n'est pas le cas d'autres personnes qui sont un peu plus âgées que toi et qui viennent plus du milieu du break, presque dans la rue, quoi.
Oui.
Est-ce que tu trouves que là, à l'heure actuelle, il y a un peu un choc, un peu des générations avec deux visions peut-être du break différentes entre la jeune génération et l'ancienne génération?
Pas vraiment, parce que en fait, ce qui est important dans le break, t'as beaucoup de codes au final qui priment et il y a beaucoup On accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est partage et transmission. C'est des choses qui se font naturellement et dans le break, au final, quand t'es un acteur du break, tu te dois de partager et de transmettre ce que tu sais. Et quand tu transmets la danse, mais tu transmets son histoire aussi. Donc quand t'es dans le milieu... tu grandis avec toute son histoire, avec ses codes. Ce que j'aime bien, c'est que quand tu vas, je sais pas, tu peux voyager, aller une compétition à l'étranger, mais de partout, ce sera pareil. On se comprend sans parler. Je sais que sans crainte, demain, je vais au Japon, qui est une culture totalement différente, mais j'y vais dans le cadre de la danse, je serai absolument pas dépaysée. On a tous évolué dans le même milieu avec les mêmes références, donc quand je viens, je sais que voilà, là il y a un cypher, maintenant je rentre, j'échange, et au final c'est comme ça aussi qu'on se rencontre et qu'on se rassemble. Donc par cette transmission-là, en fait, c'est ça qui fait que la culture, elle vit et elle perdure. Donc en fait, quand tu danses, t'es pas qu'un danseur, t'es hip-hop au final.
Ouais, c'est ça. C'est, en fait, c'est une grande, presque une grande communauté
ouais.
dans laquelle tu rentres à partir du moment où tu te mets au break, quoi.
Ouais, quand tu rentres, t'apprends à danser, mais t'apprends aussi quelles sont les légendes de la discipline,
ouais.
quelles sont les musiques. Quand tu vas... Ben là, par exemple, ma dernière compétition, c'était à New York. Et c'était ouf, parce que du coup, c'est vraiment là où est née la discipline. Et quand tu danses et que tu entends les classiques, peu importe quel âge tu as, tu connais les classiques
ouais.
de musique. Et oui, c'est ça, en fait, qui fait que la culture, elle se transmet et qu'il n'y a pas ce choc de génération. Les générations, en fait, ça va changer aussi beaucoup. Bah, par exemple, comment moi, j'ai connu. Donc, on a une approche avec la danse qui est différente parce qu'on a travaillé différemment. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont un bagage technique qui est hallucinant.
Ouais.
Tu te demandes, mais comment, à cet âge-là, on peut comprendre son corps ? Donc, dans la manière de danser et peut-être d'appréhender une compétition, ça va être différent sur ça.
Ok. Ok, et c'est vrai que c'est, on se dit, c'est un truc vraiment qui m'intriguait parce que tu te dis, il y a quand même tout un bagage historique dans le break et c'est pas rien. Et effectivement, contrairement peut-être à d'autres disciplines, bah il y a une histoire, tout un passif sociologique presque
ouais.
qui va avec.
En tant que danseur, tu te dois de respecter l'histoire et de la faire vivre. Et au final, c'est ça aussi qui te motive. Enfin. Et qui te fait aimer la discipline. Je sais que là, aujourd'hui, en tant qu'athlète, je dois m'entraîner dur, j'ai des objectifs, et des moments où, justement, j'ai envie de relâcher la pression, bah là, ma saison, elle est finie, j'ai envie d'aller faire un petit battle où, qui n'a rien d'officiel, mais où je sais que je vais retrouver de la bonne musique, l'esprit du cypher, justement,
ouais.
toute sa dynamique, pour pouvoir me retrouver dans cette ambiance-là et m'exprimer d'une autre manière et comme j'ai commencé, au final.
Là, tu sens que dans la structuration qui est en train d'avoir lieu, hein, parce que finalement, c'est en cours au fur et à mesure, que justement, il y a une vraie volonté de respect de l'ADN du break. Parce que vous, maintenant, vous avez... Tu entraînes à l'INSEP comme une
ouais.
athlète de haut niveau. Et tu as
ouais.
le statut d'athlète de haut
ouais.
niveau, alors que ce n'était pas le cas pour les breakers avant. Est-ce que tu sens quand même que l'essence de ta discipline reste la même ?
Oui,
malgré ça.
L'essence reste la même. Donc, il y a la volonté d'un côté de la part de toutes ces institutions de respecter qui on est. Ils savent très bien que si on veut que le break marche, il va falloir qu'on soit fidèle à notre identité. Donc, il y a ce respect-là. Et il y a nous aussi, à l'inverse, cette volonté de faire grandir la discipline et de s'intégrer aussi au milieu sportif. Donc, il y a ces deux volontés-là qui se mêlent et qui font que la construction qui est en train d'avoir lieu, on évolue quand même ensemble pour que ça se passe au mieux.
Il y a une équipe de France de break maintenant.
Oui.
Vous êtes combien ? Comment ça s'est fait ?
Alors, à partir du moment où on a été considéré comme une discipline sportive, donc c'était en 2019, c'est là qu'on a créé la première équipe de France.
Mm-hmm.
Les acteurs du break sont au centre du projet. Donc la première équipe de France, elle s'est vraiment créée par rapport au palmarès. Quelles sont les personnes les plus titrées et les plus
okay.
reconnues dans la discipline ? Moi, j'en faisais partie principalement avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Et ensuite, on a instauré les premiers circuits nationaux qui permettaient vraiment de pouvoir sélectionner à travers des compétitions l'équipe de France. Aujourd'hui, on est beaucoup. On est 25, je crois.
Dans l'équipe de France ?
On est une vingtaine dans l'équipe de France.
Okay.
Après, tu peux mêler toutes les catégories, enfin, à partir de relève. À partir de relève, il y en a qui sont en collectifs nationaux et en espoir. Et sinon, aujourd'hui, on a l'INSEP qui nous a ouvert ses portes et qui nous accueille. Et donc, c'est le premier pôle d'entraînement. Donc, depuis septembre 2022, on a le premier pôle à l'INSEP et il accueille six membres de l'équipe de France qui, du coup, on est regroupés sous la cellule Paris 2024.
D'accord.
Et on a le droit à trois partenaires d'entraînement de l'équipe de France.
Ok, d'accord. Donc ouais, vous êtes beaucoup dans l'équipe de France, mais finalement, sous la bannière Paris 2024 à l'INSEP, vous êtes peu.
Oui, oui, très peu. Maintenant qu'on s'approche de plus en plus vers les Jeux, le but, ça a été vraiment d'essayer de cibler quels étaient les potentiels médaillables et de tout investir, on va dire, sur ces personnes-là pour avoir le plus de chances de sélection et de médailles aux Jeux.
Comment ça va se passer, justement, la sélection, concrètement ?
Alors, la sélection... beaucoup de choses. Pour les Jeux, on aura deux catégories, filles et garçons. Et dans ces deux catégories, il y aura au final 16 danseurs. Ce qui est bien, c'est que la France a une place. Comme c'est le pays hôte, on a une place chez les garçons et une place chez les filles. Donc,
d'office.
On est sûr d'avoir un Français, sous réserve que les Français soient au moins dans le top 32 mondial.
Ça devrait aller.
Ouais, c'est bon. Et ensuite, il y a des quotas. Tous les gagnants des championnats continentaux sont qualifiés directement pour les Jeux.
D'accord.
Le gagnant du championnat du monde également, ce qui fait qu'il reste 10 places. Et ces 10 places, elles vont se disputer durant une série de compétitions qui vont être déterminées et sélectives pour les Jeux. Donc les 10 premiers seront sélectionnés pour les Jeux.
Petite question, mais du coup, vu que vous avez une place d'office, est-ce que vous pouvez avoir une deuxième place ?
Normalement, oui.
D'accord, donc si par exemple, imaginons, tu fais championne d'Europe,
ouais.
Toi, t'es sûre d'y aller parce que t'as fait championne d'Europe, mais ça peut laisser un quota encore à une autre de...
Ouais, voilà, si après, par exemple, quelqu'un d'autre va choper sa place sur la série de compétition, elle prend sa place aussi pour les Jeux.
D'accord, donc oui.
Je crois que c'est 2 maximum par pays.
Ok, et donc 16 au total pour les Jeux.
Oui.
2, ok, tout confondu. Donc, ok, bah écoute... C'est plus clair maintenant dans mon esprit. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je crois d'ailleurs que vous allez sur les Jeux, c'est prévu un lieu assez incroyable.
Ouais. Ouais, on sera place de la Concorde.
Ah là là.
Et ça c'est génial. On sera sur le site du 3-3 basket.
Ouais.
Donc dès que eux finissent leur compétition, on installe notre sol à nous et on dansera. Et ça c'est super bien parce que l'environnement du 3-3 basket, le public en fait, il est tout autour.
Il est proche, enfin il est assez...
Ouais. Donc là le public va être proche et c'est ça qui va faire vivre la compétition et ça c'est super bien de la part de Paris 2024. Dernièrement, sur les derniers championnats du monde qu'on a pu faire du coup en Asie, les derniers étaient en Corée, un était en Chine, et on a eu cette problématique-là où du coup le public était beaucoup moins réceptif, ou alors ils participaient moins et ça a été super dur. Donc là, que Paris 2024 prenne ça en compte et mette le public aussi proche de nous, ça va faire que c'est sûr que ça va être une réussite, c'est certain.
C'est quoi tes objectifs ?
On va y aller étape par étape. On va y aller étape par étape. Moi, je veux me sélectionner. Et à partir du moment où je serai sélectionnée, je veux viser la médaille. Je pense que c'est pas prétentieux, mais quand tu es impliqué dans un tel parcours, tant qu'à faire, vise le meilleur. C'est pas rien. Donc, si je peux en ressortir avec une médaille, je veux vraiment pouvoir m'en donner les moyens.
Tu sens que t'en es capable ?
D'un break ? Comme tu peux rien prévoir, je sais que j'en suis capable. Tout le monde en fait en est capable aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi une histoire de timing. Le favori aujourd'hui n'est pas forcément le favori de demain. Une compétition, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va en ressortir, comment tu danses et comment sera ton adversaire, quel rôle va jouer le public aussi qui soutient. Donc il y a tous ces paramètres-là qui font que chacun a ses chances et donc à toi de voir comment tu t'en donnes les moyens.
Ça, effectivement, tu parles du public, mais c'est vrai que bah, si t'es qualifié et que t'as la chance de pouvoir faire les Jeux, bah, tu seras en France.
Ah ouais, ah, ça sera magique.
Et on est quand même un petit peu connu pour être chauvin. Ouais. Ah, donc, oui. Très clairement, je pense que l'ambiance, elle va être là.
J'ai aucun doute sur le fait que les Français vont être à fond derrière nous, et ça, c'est super.
C'est génial. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite vraiment de te qualifier pour les Jeux, et puis de vivre... une Olympiade le mieux possible.
Ouais, merci.
Après, il reste. C'est vrai que maintenant, c'est loin et proche. C'est un an et demi, ça arrive plus ou moins un an et demi, quoi.
C'est demain, parce que 2023 commence les sélections. Donc, en fait, il faut déjà être prêt aujourd'hui.
Ouais, là, ça, en fait, à partir de l'année prochaine, non, dans le mois prochain.
Ouais, parce que... c'est clair.
Là, les sélections commencent concrètement.
Ouais, c'est ça.
Ok, bon bah écoute, ça va, tu appréhendes ou sereine ?
Dernièrement, j'étais un peu stressée et aujourd'hui, je me dis non, j'ai pas de stress à avoir parce que justement, en fait, c'est la dernière ligne droite, donc tu peux pas te poser de questions, t'es obligée d'y aller, foncer et mettre toutes tes chances de ton côté.
C'est quoi ton état d'esprit là ?
Au final, j'appréhende bien les Jeux. J'ai un bon état d'esprit quant à ça, parce que il y a tellement de choses qui ont évolué, qui ont changé, qui sont venues intervenir dans notre discipline, dans notre préparation, que j'ai envie de faire des Jeux une belle expérience. J'ai vraiment envie d'y aller et d'imposer qui je suis, de, au final, pouvoir m'être accomplie en tant que sportive, mais surtout en tant que danseuse. Mm-hmm. Pouvoir être forte techniquement, avoir montré justement tout ce que les Jeux m'ont apporté et m'a permis d'améliorer, mais du coup aussi de pouvoir... mettre en avant tout le côté artistique, parce que le break, on a ce côté sport, on a ce côté artiste, et j'ai vraiment envie que ça se soit mis en valeur, et du coup, danser avec cette élégance-là, de m'accomplir en tant que danseuse, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'appréhende bien, parce que j'ai vraiment envie de faire ça à un moment unique, et d'être fière de moi après, j'ai envie de profiter de ces Jeux.
J'ai l'impression aussi, tu me dis si je me trompe, mais on sort un peu du sujet, mais pas vraiment, que t'as envie que le break, que tout ça, ça rayonne au-delà du sport, au-delà de ta propre personne. Et j'ai l'impression déjà aussi, j'ai pu le voir un petit peu quand j'ai fait des recherches sur toi, que t'étais aussi quelqu'un qui avait envie de s'engager. Et c'est, ça peut être surprenant et rare pour une femme de 20 ans, quoi.
Ouais. Mais ce que j'aime dans le break, en fait, c'est que ça implique tellement de choses. Avant d'être un sport, on était considéré comme une discipline culturelle. À côté de ça, on est aussi des artistes. Il y a beaucoup de danseurs qui sont impliqués dans des compagnies de danse. Et là, aujourd'hui, on est considéré comme des athlètes, donc on a la branche sportive. Il y a plein de choses à faire. Du coup, tu vois qu'en une discipline, t'as autant à apporter culturellement, artistiquement et de manière sportive. J'aime aussi le fait... que moi, dans mon parcours, souvent, on nous demande en break sur des interventions dans des centres sociaux parce que la valeur éducative que ça a, c'est impressionnant. Mm-hmm. Comme je te disais tout à l'heure, tu prends quelqu'un au début du cours et à la fin du cours, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça aussi qu'on nous demande d'intervenir parce que... Ça te permet au final de te réunir, d'inculquer des valeurs, surtout des valeurs sportives, comme le dépassement de soi, la persévérance, et ensuite de prendre confiance en toi et de te motiver à te donner les moyens d'aller plus loin, de dépasser tes limites. Et c'est ça que j'aime dans la discipline, c'est que dans une discipline, tu peux intervenir sur plein de choses.
Et c'est ce que tu as envie déjà, à ton jeune âge, finalement, de transmettre aussi, quoi.
Ouais, mais souvent, on me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard et je sais pas parce que je sais que je veux continue d'être impliquée dans la danse, mais c'est pas facile de répondre parce qu'il y a trop de choses à faire. Il y a tellement de choses et j'ai pas envie de me limiter et de me dire ok, je ferai ça. J'ai envie vraiment de prendre les choses comme elles vont venir à moi et de pouvoir explorer toutes les facettes que la danse a à m'offrir.
C'est une question un peu trop précoce. Oui. Là, je veux dire, pour le moment, t'es à fond dans le break, donc c'est vrai que j'imagine que tu verras bien ce qui se présente à toi aussi au fur et à mesure.
Encore plus, avec les jeux, ma vie, elle a beaucoup changé. Elle a fait un, elle a fait un 360, je pourrais dire. Mais, et en fait, je m'y attendais pas. Avec les jeux, aujourd'hui, par exemple, je viens de m'installer en septembre à Paris et jusqu'au moment où pendant les visites d'appartement, en fait, je parle à ma mère et je lui dis mais maman, c'est ouf parce que j'ai 20 ans, je suis à Paris, moi je suis originaire d'Aix-en-Provence, je dis c'est ouf, là on est en train de chercher un appartement sur Paris et en plus je vais pouvoir le financer grâce au break qui aujourd'hui est mon métier. Donc tu vois en fait cette phase, elle vraiment, à ce moment-là j'étais en train de réaliser plein de choses et je me disais que c'est ouf à mon âge que ça implique tout ça. Aujourd'hui, rien que le fait de me dire que je suis une athlète, pouvoir bénéficier de l'INSEP, de pouvoir avoir des sponsors, des choses au final que je rêvais de loin mais qui aujourd'hui en fait me sont accessibles, de pouvoir appréhender sereinement mon avenir puisque aujourd'hui je peux vivre du break et je l'imaginais pas de telle manière quand j'étais plus petite. Donc du coup quand on me demande qu'est-ce que je veux faire, j'ai pas envie de prévoir parce que je sais que j'aurai des opportunités à l'avenir, je sais pas de quelle nature, mais j'aurai des opportunités dans le break, il y aura toujours quelque chose à faire, donc j'ai hâte de voir après l'étape des jeux qu'est-ce que je vais faire après, quelles seront les opportunités à l'exploiter.
Avant dernière question, mais du coup c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que le break malheureusement, mais c'est vrai qu'historiquement on l'associe beaucoup plus aux hommes.
Oui.
Y a eu une plus grande visibilité du break masculin pendant des années, et aussi parce que bon, bah, voilà, les figures de proue étaient aussi des hommes. Comment tu considères ta discipline, toi, au niveau du développement sur l'aspect des femmes? Et est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que c'est quelque chose qui change?
Je suis assez fière de ma discipline pour ça. Parce que moi, quand j'ai commencé le break, on était peu de filles. On était vraiment très peu de filles. Mais en fait, même à cette époque-là, on n'avait pas forcément de discrimination. En fait, les questions, elles se sont jamais posées à catégoriser quelqu'un. Quand j'ai commencé, tu danses, tu viens. En fait, on se pose pas de questions. Tu viens danser et tu viens faire ta compète et puis c'est tout. J'ai jamais eu de différence et ça a été super bénéfique de pouvoir évoluer dans un milieu de garçons parce que en fait eux ils se posent pas de questions. Tu viens à l'entraînement, est-ce que tu sais faire ça? Vas-y, essaie. Et eux tu les vois faire, tu les vois se jeter et essayer et tu te dis mais moi je peux pas faire de manière en fait. Je peux pas faire de manière et je vais essayer de faire comme eux et de ce fait-là, en fait, ça fait que j'ai évolué beaucoup plus vite. Et ensuite, aujourd'hui, on a beaucoup plus de filles. Maintenant, la majorité des compétitions, t'as une catégorie filles, une catégorie garçons. Tu vois de plus en plus de DJ, de speakers filles.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais effectivement, autour de ça aussi, il y a.
Ouais. Au-delà des danseurs, en fait, tous les acteurs sont beaucoup plus féminines. Mm-hmm. Et donc, du coup, tu ressens aussi, du coup, un vrai mouvement big girl, big girling, où du coup. On va beaucoup plus se réunir, s'aider, partager ensemble. Et ça, c'est bien. Moi, j'ai eu cette chance-là de grandir dans une équipe qui était assez composée de filles. C'était rare à l'époque. Mmh. Et en fait, autant d'un côté, j'avais les garçons pour me permettre de me libérer, de pas me poser de questions et d'aller dépasser mes limites. Et d'un côté, ce côté fille qui a permis de me construire, moi, en tant que femme dans cette discipline. Enfin, et surtout en tant que femme dans la perception que j'ai de moi-même et dans la vie de tous les jours. Et ça, c'était une vraie richesse. Et donc, je trouve que ma discipline, elle est belle pour ça.
C'est quoi ta définition de la féminité?
Ce que j'aime et ce que je ressens, en tout cas, en tant que femme, c'est toute cette force qu'on a en nous et de pouvoir, à chaque fois je le dis, de faire les choses avec élégance. J'adore. Quand j'ai des refis à relever, comment je vais le faire et comment, Et ouais, comment je vais le mettre en valeur. On a cette petite subtilité, les femmes. Et je trouve que ce qu'on dégage... j'aime que dans ce qu'on fait, dans nos combats, comment on va le faire que ce soit beau, que ce soit mis en valeur. Et c'est une force de pouvoir être une femme, je trouve.
Je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Eh bien, écoute, moi, je trouve que c'est une très bonne manière de conclure. Et je vais juste te poser la dernière question qu'on pose à toutes nos invitées. Si tu devais donner la définition d'une championne, qu'est-ce que tu dirais ?
Wow. Pour moi, un champion, c'est quelqu'un de persévérant. Dans un parcours, il y a tellement de choses qui peuvent être difficiles et qui peuvent te démonter, clairement. Et comment, toi, tu vas persévérer ? Quelle va être ta démarche à aller chercher des solutions, à aller justement te mettre en difficulté et aller au-delà de tes limites ? Et je pense que c'est ça qui fait que tu es un champion. Oui.
Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Carlotta.
Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
C'était un plaisir aussi, et surtout, j'espère que toutes les personnes qui écouteront cet épisode comprendront aussi un peu mieux quelle est ta discipline, comment ça se structure, comment ça va se passer aussi à Paris 2024, parce que c'est important aussi d'emmener les gens avec nous, et ouais. Surtout dans cette discipline, tu l'as bien dit, parce que le public joue un rôle très important.
Exact.
Donc si les personnes peuvent être un petit peu connaisseurs au moment où ils arrivent et quand ils seront à Paris 2024, écoute, tant mieux, et j'espère que potentiellement cet épisode servira à ça.
Ouais, merci
et à te beaucoup. Soutenir aussi.
Oh, merci.
je vous conseille tous, on postera sur les réseaux sociaux aussi ce que fait Carlotta, que vous puissiez aussi un petit peu voir concrètement, parce que c'est quand même une discipline qui est visuelle, donc c'est important de pouvoir voir dans la réalité comment ça se passe et ce que tu fais, et j'encourage tout le monde à te suivre sur les réseaux et ailleurs.
Merci
beaucoup Carlotta, et à très bientôt.
À bientôt.
Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.